On continue notre étude dans Romains, et cette fois-ci, on va faire 16 versets, un petit peu plus que ces derniers temps. Mais je divise le livre en morceaux qui me semblent logiques. Au chapitre 1, donc juste revenir une seconde, excuse-moi, on peut donner comme titre à ce texte, « Toi qui juges, tu es inexcusable. » Donc ça, c'est le verset 1 du chapitre 2. « Toi qui juges, tu es inexcusable. » Donc, petit résumé, chaque fois, pour bien nous mettre dans le texte, que je fais à partir de trois versets. Romains 1, 16 à 17, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est le sujet même de cet épître. » Et pourquoi avons-nous besoin de l'évangile du salut? C'est parce que Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui ont retenu la vérité captive. Et ce texte nous montre que ce qu'on peut connaître de Dieu, on le voit dans sa création, on sait qu'il est là, c'est sa puissance, sa divinité, son éternité, mais les hommes ont étouffé ou retenu la vérité captive, et ils n'ont pas voulu rendre grâce à Dieu. Ils sont passés dans le parc Martin Luther King ce matin, ils ont vu les arbres en fleurs, ils ont dit « c'est joli », mais n'ont pas ajouté « merci Seigneur », parce que ça vient de lui. Ils n'ont pas dit « je me suis levé ce matin, j'existe », merci Seigneur. Et à cause de cela, nous avons vu à trois reprises que ce texte nous dit que Dieu les a livrés, une partie de sa colère. Il y a la colère du jugement dernier dont on va parler ce matin, mais aussi le jugement de tous les jours. Dieu dit, allez, Dieu laisse faire. Et on a vu que cela aboutit d'une part à l'idolâtrie, d'autre part à l'homosexualité, mais aussi à toute une panoplie d'autres péchés, on va dire, à partir du verset 28 hein, du chapitre 1. Des choses indignes, injustice, méchanceté, cupidité, malice, envie, meurtre, querelle, ruse. Et les êtres humains sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc voilà le verdict, on va dire, de Dieu. Voilà, en tant que chrétien, ce que nous pensons de l'être humain. Et la dernière fois, la semaine dernière, on a parlé de cette doctrine. Quand on essaie, une doctrine, c'est quand on essaie de mettre clairement par écrit ce que nous croyons. Cette doctrine qui s'appelle la corruption totale ou la dépravation totale, où nous avons vu que tous les êtres humains, dans tous les aspects de leur vie, sont touchés par le péché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés aussi loin que possible dans le péché. La grâce commune est là. Mais malgré tout, le péché touche chaque être humain dans tous les aspects de sa vie. Mais il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? Est-ce qu'il n'y a pas des gens bien? Est-ce qu'il n'y a pas des bons pères de famille? Est-ce qu'il n'y a pas des bons citoyens qui ne roulent que les jours alternés et qui disent 22 heures ou c'est rien? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui cherchent à faire le bien? Est-ce que tout le monde est aussi mauvais que le chapitre 1 le dit? On pourrait penser d'ailleurs à un contemporain de Paul, hein, je ne sais pas si vous connaissez le nom Sénèque, donc c'était un philosophe contemporain de Paul, stoïcien, qui aurait certainement été tout à fait d'accord avec l'analyse de Paul au chapitre 1, parce que les philosophes aussi faisaient des listes de tous les maux de la société, mais en disant, mais nous, stoïciens, on ne peut pas aller dans ce sens. Est-ce qu'il faut être un peu plus optimiste Je me souviens quand j'étais au Blanc-Ménil d'une journée sur la laïcité où quelqu'un nous avait dit, mais même les athées croient en quelque chose, on croit en l'homme, qui a, comme j'ai dit la dernière fois, un bon fond. Alors que penser de cela? Est-ce que vraiment on est tous dans le même sac quelque part de ce chapitre 1? Ça c'est le sujet de Romains 2, 1 à 16. Alors, je vais lire le texte d'abord. Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, s'en rebellent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, ce chapitre 2 répond en quelque sorte à cette question. La réponse à cette question est au chapitre 2. Alors, je vais faire un raisonnement en 5 temps. Voilà. Il y a 5 choses que l'on peut dire face à celui qui dit, mais finalement, il y a des gens bien, tout le monde n'est pas aussi mauvais que ce qui est écrit au chapitre 1. 5 choses. Première chose, c'est que, comme j'ai dit là, on est plus critique à l'égard des autres qu'à l'égard de soi-même. C'est en quelque sorte une sorte de faiblesse humaine. On voit tout de suite quand les autres ne font pas ce qu'il faut faire. On le voit beaucoup plus difficilement dans sa propre vie. Jésus en a parlé. Il dit, enlever la petite paille dans l'œil de l'autre, alors qu'il y a une poutre qui est dans son propre œil. Hein, donc on voit la paille, mais pas la poutre. En condamnant les autres, en plus, on donne l'impression qu'on est juste soi-même. On n'a pas à se défendre en quelque sorte, on n'a pas à se dire « moi je suis juste ». On le fait comprendre, quelque part. Parce que quand on dit, ah, celui-là, il ne paye jamais son repas à la cantine, à son moyen de passer, ou il ne fait pas ceci, ou il ne fait pas ça, ou il rapporte, toujours sous-entendu, mais moi, en fait, Je ne suis pas comme ça. Et Jésus a dit dans Matthieu 7, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Les gens le sortent très facilement ce verset, mais il faut quand même lire le verset qui suit. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est-à-dire qu'on a le droit quand même de juger dans le sens d'évaluer. On a le droit, mais à une condition près. C'est-à-dire qu'on utilise la même mesure envers soi-même. Ça, c'est le problème. Quand on dit « je juge », il faut aussi utiliser les mêmes critères. Donc, les êtres humains sont souvent très sévères envers les autres et beaucoup plus indulgents envers eux-mêmes. Et un mot pour ça, c'est l'hypocrisie. Premier point. Et c'est pour cela que Paul dit, tout de suite, au verset 1, parce qu'on est en train de parler du verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Okay. » Première étape de l'argumentation de Paul au chapitre 2. Deuxième chose, à trois reprises dans ce texte, Paul dit, c'est les versets 12, 15 et 16, qu'il y aura un jour de jugement. Donc, quand on dit « ne juge pas », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. Mais c'est Dieu qui juge. Le verset 2 le dit d'abord. « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Dieu juge selon la vérité. Et si on va dire dans la philosophie un peu postmoderne que la vérité n'existe pas, comme j'ai entendu une fois un professeur de philosophie le dire, il dit, c'est très bon d'enseigner que la vérité n'existe pas, quand on est dans la salle de classe, mais il faut traverser une route à quatre voies. La vérité existe. Il y a des véhicules qui sont vraiment là. Et on se fait écraser si on ne fait pas attention. Donc, c'est très bien. Mais le Seigneur juge selon la vérité. Le verset 15 le redit. Il montre que... Enfin, je vais plutôt passer au verset 16, en fait. « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera, par Jésus-Christ, les actions secrètes des hommes. » Donc, de nouveau, on a le jugement. Ce jugement est juste. Et d'ailleurs, pour les chrétiens, c'est un certain soulagement de savoir que ce jugement... C'est par Jésus qui est notre sauveur. Jugé par Jésus-Christ. Mais si tout à l'heure on avait dit que le jugement est selon la vérité, cette fois-ci, Paul va encore plus loin, inspiré par le Saint-Esprit, pour dire que Dieu jugera même les actions secrètes des hommes. Parce que si au premier point, on est plus critique à l'égard des autres, c'est parce que on est en train de juger ce qui est visible. Mais qu'est-ce qui est invisible? Dans nos pensées, dans les paroles que l'on aurait pu dire, comme quelqu'un dit, qui sommes-nous quand personne ne nous regarde? Ça, c'est la question. Et moi, je trouve, dans ce sens terrible, même en disant, j'ajoute, parce qu'on est entre... chrétien, que c'est en même temps un réconfort pour nous. Mais c'est quand même terrible dans le psaume 139, quand le psalmiste dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » de savoir que le Créateur de l'univers connaît toutes nos pensées, toutes les paroles que l'on va prononcer et toutes nos actions secrètes, c'est un appel au sérieux. Donc, deuxième point, un jour, chacun sera jugé par Dieu. Ce qu'on appelle le jugement dernier. Troisième point dans le développement de Paul, c'est que ce jugement sera rendu suivant les actes que chacun aura accomplis. Ok, on n'est pas encore au chapitre 3 des Romains. Et Dieu va juger chacun selon ses actes. Alors là, à plusieurs reprises dans ce texte, hein, je vous ai donné les versets. Verset 3. Penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu. Verset 6. La fin du verset 5 qui part du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Versets 7 et 8. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance au bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et versets 9 et 10, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Donc, le verset clé pour cela, parce que c'est dit en toutes lettres, c'est le verset 6, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et ça, c'est un thème qui revient, je ne vais pas citer tous les versets, moi j'ai trouvé douzaine au moins de versets dans la Bible qu'il dit en toutes lettres. Je vous en lis deux, trois. Le psaume 62 et le verset 13, par exemple. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Jérémie 17 et le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il y a également dans Jérémie 32, verset 19. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et puis, pour qu'on ne soit pas uniquement dans l'Ancien Testament, il y a également les paroles de Jésus dans Matthieu 16 et le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, Dieu connaît nos actions secrètes. Il y a un jour de jugement. Ce jugement sera fait à partir de nos actions, nos œuvres. Quatrième élément du développement de Paul, cela est vrai pour tous, que l'on soit juif ou non juif. Donc, autrement dit, il n'y a pas de favoritisme. Donc ça, ce sont les versets 9 et 11, où il insiste pour dire que la tribulation et l'angoisse est sur le juif premièrement, puis sur le grec. Alors que la gloire, l'honneur et paix, pour celui qui fait le bien, c'est pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il y a un point de favoritisme. Alors il va développer cela, parce que les juifs pourraient penser que ils avaient la loi de Dieu, qu'ils étaient mieux placés. en quelque sorte, que les Grecs. Donc le cinquième point de ce développement, c'est que ce jugement sera totalement impartial et rendu selon les lumières que chacun aura reçues. Donc ça, c'est les versets 12 à 16 que je lis. De nouveau, en insistant sur deux, trois choses. Ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Ceux qui ont péché avec la loi sont jugés par la loi. Car ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais qui la mettent en pratique. Les Juifs pouvaient dire, moi je vais à la synagogue tous les Shabbats, j'écoute. Nous on peut dire, on vient écouter la parole de Dieu tous les dimanches. Certains lisent la Bible tous les jours, on écoute. Mais ça ne sert à rien, c'est de le mettre en pratique. Parce qu'il dit même que, au verset 14, les païens, il y a des païens qui n'ont pas la loi de Dieu, mais qui font ce que dit la loi. On n'a jamais trouvé une tribu quelque part qui n'avait pas la notion du bien et du mal. Parfois, dans quelques rares exceptions un peu tordues, mais en général, les mêmes principes de bien et de mal qui sont là. Je vais développer tout à l'heure, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais on voit bien que l'on ait la loi ou que n'en ait pas, tout le monde est conscient de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Donc voilà le développement. D'abord, je vais dire, dans ces versets de 1 à 16. Mais j'aimerais approfondir un tout petit peu surtout ce dernier point, que le jugement sera rendu sur la lumière que chacun aura reçue. Donc on va pousser un petit peu plus loin, ça c'est plutôt les versets 14 et 15. Donc comment peut-on savoir donc que ceux qui ne connaissent pas la loi ont reçu des lumières sur le bien et le mal? Alors il y a trois raisons qui sont données dans le texte. D'abord au verset 14, parce que ils font parfois des choses conformes à la loi de Dieu. Même si à l'époque de Paul, ils pouvaient aller en Turquie, en Grèce, à Rome, et parler avec des païens qui n'avaient jamais lu l'Ancien Testament, ils savaient que quelque part, les personnes à qui il s'adressait avait cette notion de bien et de mal. Et parfois, pour le bien commun, il faisait justement le bien. Le verset 14 le dit, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. » Cette loi qui est un peu à l'intérieur de la personne, on va dire. Deuxième chose, c'est le verset 15, ils ont une conscience. Donc, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, etc. Donc, la conscience existe. On n'a jamais dit le contraire. Certains, comme Freud, l'ont poussé un peu loin. Mais tout le monde sait que cette notion de conscience à l'intérieur de nous-mêmes existe bel et bien. La troisième raison pour laquelle on sait que les païens comprennent vraiment le bien et le mal, c'est le fait, comme il est dit au verset 15, que leurs pensées peuvent les amener à reconnaître leur tort, leur innocence, et de même les torts et l'innocence des autres. Autrement, un tribunal n'aurait aucun sens. On cherche à savoir qui a raison et qui a tort, pour savoir s'ils agissent dans leur bon droit ou non. Donc, ça veut dire que, selon le raisonnement de Paul, même les païens qui n'ont jamais, donc je résume, les païens qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament, qui ne connaissaient pas les 10 commandements, dans leur fort intérieur, ils ont à peu près les mêmes idées sur le bien et sur le mal que les juifs qui lisaient cela dans leur synagogue. Okay. John Stott, et je trouve cela intéressant, donc le pasteur anglican qui a écrit pas mal de bons livres, j'ai lu dans un de ses livres une fois qui dit « Quand on annonce l'évangile, on peut savoir que quand nous, on annonce l'évangile, la conscience de la personne dit la même chose que nous. » Donc, on a un avocat, à la limite, à l'intérieur de la personne. La conscience de la personne est en train de dire la même chose que nous. Bon, leur parole, des fois, c'est autre chose. Mais leur conscience le dit. Mais, donc, ce qui est dit dans ce texte, parce que je ne peux pas vous donner de versets, parce qu'en fait, voilà, on est dans la progression dans les Romains, et ça va venir un petit peu plus tard. Mais vous voyez, l'implication de tout cela, c'est que l'on soit juif ou que l'on soit païen, personne n'est à la hauteur devant Dieu. Et tout le monde le sait. Et même les meilleurs, à certains moments de leur vie, ont aussi fait le mal. Il paraît, mais je ne suis pas un expert en histoire, mais il paraît que Sénèque, donc, dont j'ai parlé, le stoïcien, qui avait une idée très forte de la moralité, avait quand même encouragé Néron dans certaines de ses persécutions. Donc, on va dire que malgré tout, ce n'était pas un homme parfait. Donc, vous connaissez certainement, parce que j'ai souvent dit, mon histoire du baccalauréat. Donc, j'étais en Belgique il y a 15 jours, j'ai compris là que ce n'est pas le baccalauréat, ça s'appelle la rhétorique en Belgique. Bon, en tout cas, le baccalauréat, qu'est-ce qu'on veut? On veut la moyenne. Et quelque part, chacun pense, je suis un bon citoyen, j'ai la moyenne. Ok, je fais du mal, mais je fais du bien, donc finalement, ça s'équilibre, je suis dans la moyenne. Mais dans notre conscience, c'est ça en fait l'enseignement de ces versets 1 à 16, c'est qu'on sait que la moyenne ne suffit pas. Parce que Dieu ne demande pas la moyenne, mais 20 sur 20. Et personne n'a 20 sur 20. Je me souviens de quelqu'un dans l'Est de la France, lors d'une réunion qui avait dit, je trouve que c'était bien dit, je le cite, « Je ne sais pas comment il est, le cœur d'une crapule, mais je connais mon propre cœur. » Et on sait que on n'est pas ce que l'on voudrait être. Alors, deux questions pour terminer. Parce que c'est quand même important de voir tout cela. Donc la première question. Est-ce que le verset 7, qui dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à faire le bien cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, est-ce que ce verset n'est pas en contradiction avec le chapitre 1 qui dit que finalement tous sont pécheurs, surtout les versets du chapitre 3, verset 19, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, ou le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comment on va interpréter ce verset 7? Bon, en fait, je l'ai déjà dit. Donc, il y a deux façons de comprendre cela. La première réponse, c'est que le principe est vrai, mais impossible à vivre. Si quelqu'un cherchait, effectivement, par une persévérance à bien faire, à chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité, effectivement, si quelqu'un, du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, chercher cela, il serait sauvé. Donc ce n'est pas faux. Le problème, ce n'est pas la loi, comme dit Paul un peu plus loin, on va y arriver vers le chapitre 7, le problème ce n'est pas la loi, c'est nous. Et nous qui n'arrivons pas. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que malgré tout, il ne faut pas minimiser. Parce que cela veut dire que celui qui, le chrétien qui est régénéré, doit chercher après à bien faire. Il n'est pas sauvé par cela, mais ça fait partie de l'évangile. Et si On peut diviser Romains en grandes parties. On va dire qu'on a l'évangile du salut, chapitre 1 à 4, et de 5 à 8, beaucoup plus la sanctification, comment on va vivre pour plaire au Seigneur. Et là, forcément, il veut mettre dans notre cœur ce désir, cette persévérance à bien faire. Mais de toute façon, ce n'est pas la voie du salut en tant que tel. Le salut dans le sens du pardon des péchés. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle doit être en fait mon attitude face à ce texte? Et j'ai retenu le verset 4 comme étant un peu au centre de ce texte pour savoir quelle attitude on doit avoir tous. Le verset 4 qui dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité ou de sa générosité, comme dit le semeur, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Quelle est la bonté en question? C'est que Dieu n'intervient pas immédiatement pour punir tout mal que l'on fait, toute pensée, toute parole, tout acte. Il est patient. Et cette patience a un but, c'est de nous pousser à la repentance. Repentance, changer d'idée, ça veut dire de reconnaître qu'on agissait mal. Donc Dieu veut nous amener à ça et que l'on comprenne que sa bonté, c'est de demander pardon et de se réfugier dans la miséricorde de Dieu. Ce texte anticipe déjà par ce verset ce que l'on va lire dans la suite du chapitre 2 et chapitre 3. Mais il ne faut pas trop se précipiter pour y arriver. Il faut d'abord bien mesurer l'ampleur du mal dans le monde et en nous-mêmes pour mieux mesurer ensuite et mieux apprécier la grâce de Dieu. Et c'est le but de Paul. Donc, je résume. Chapitre 1. Tout le monde est pécheur, même ceux qui se disent au-dessus du lot, qui jugent les autres. Donc, tous sont pécheurs. Tous.